Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team pour le coup d'envoi de cette. Alors on hésitait parce qu'on avait démarré en avril 2016. Alors on est entre la 9e et la 10e saison. C'est bien 9 et 10, ça fait une paire sympa. Tu serais plutôt 9 ou 10 sur le terrain ?
10e saison, c'est plus sympa.
Okay. Et
plus,
moi je préfère numéro 9.
Moi je suis un vrai numéro 10, donc ouais. Petit numéro 10. Michel Platini, Zinedine Zidane, enfin tu vois ce que je veux dire.
Alors la grande nouveauté, ça ne vous aura pas échappé, c'est que maintenant vous pouvez nous voir de A à Z puisque l'émission est désormais sur YouTube. Alors ce qui veut dire, Martin, que tu ne peux plus te décrotter le nez pendant les intros.
C'est vrai.
Ou te gratter l'oreille, ou bailler, ou te moucher. Maintenant, tout le monde te voit et tout le monde voit tes réactions.
Ouais, il va falloir faire attention à tout ça, faire attention encore plus à l'accoutrement, à tout ça. Donc Maxime, on a engagé une styliste, évidemment, parce qu'on sait que tu étais en difficulté. C'est un des domaines dans lesquels tu étais en difficulté. Alors ça ne se voit pas tout de suite, mais à partir de la semaine prochaine, Maxime, tu seras entièrement relooké.
Ouais, mais moi, comme je dis, je n'ai pas de style, je m'habille.
Non, mais
c'est la vérité, j'ai le style basique.
Ouais.
Voilà, mais ça me va très bien. Parce que je suis aussi conscient que certaines chose un peu plus funky, comme on disait, n'irait pas.
Essaye un truc funky la semaine prochaine. On peut se donner des rendez-vous comme ça. Essaye un truc un peu plus funky la semaine prochaine.
J'aimerais bien, des fois, tu vois des gens, ils pensent ça, ils portent bien ça. Mais moi, je suis à peu près sûr que je ne le porterais pas bien.
Mais on ne sait pas. On ne sait pas, ça t'irait bien. Il faut apporter un peu de fantaisie à ta vie. Et je pense que la plateforme YouTube peut te servir à ça, Maxime, à te décorseter. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu n'as pas envie.
En parlant de décorseter, toi, tu t'es bien décorseté cet été. C'est comme dit Martin, il est resté. Alors,
mais non, mais j'ai pris 3 semaines de vacances.
Le mec, on dit, comme il dit, j'ai le droit de respirer. Comme je lui ai dit, là, tu as bien dû te dégager les bronches parce que j'ai l'impression qu'il était en vacances pendant 6 mois. Et alors, son Instagram, le mec, c'était Tadej Pogacar, il a fait le Tour de France.
Bah ouais, j'ai un peu bourlingué parce que la France est un joli pays. C'est un magnifique pays et je vous le recommande à tous d'ailleurs. Et écoute, la petite île de Noirmoutier, très jolie, les Pyrénées, très sympa. Voilà, on a exploré la France tranquillement. Toi, t'es parti 3 semaines aussi.
Ouais.
Cet été, bah voilà, on a eu exactement,
exactement la même journée. Je suis rentré début août,
moi c'était championnat du monde de natation, Léon Marchand, il n'y avait personne ici.
Mais j'ai l'impression, c'est marrant, on s'est croisés, donc c'est marrant parce que quand je suis parti, tu n'étais pas là, quand je suis revenu, tu n'étais pas là.
Exactement.
Donc ces 3 semaines, elles ont été bien étirées.
Non, 3 semaines, raisonnable, contrairement à toi, tu vois.
Bon, je suis très raisonnable.
Voilà, empreinte carbone, zéro, contrairement à toi.
Moi,
et voilà, je suis bien. Bah oui.
Là, tu peux me mettre dans la sauce. Là.
Bah non, mais je ne veux pas te mettre dans la sauce.
Mon empreinte carbone au quotidien, elle est zéro, moi.
Ouais.
Je roule à l'électrique, tranquillou.
Mais quand tu fais un Paris Tokyo, c'est
le mec, il a fait de la voiture thermique tous les jours.
Attends, mais par rapport à un Paris Tokyo, Maxime.
Troisième. Ouais. Non, la blague.
Non, et en plus, j'étais en hybride cet été.
Ouais, ça, c'est pas.
Ouais,
hybride,
pas
quoi, hybride rechargeable ou...
Hybride.
C'est les fous du volant.
Pas hybride rechargeable. Non, mais écoute, voilà. Je suis content de retrouver tout le monde, tu vois. Je suis heureux de faire un stream team. Et contrairement à toi, j'étais heureux de te retrouver, mais tu m'attaques depuis tout à l'heure. Donc cette 10e saison démarre très très mal.
Alors donc oui, la nouveauté, c'est que maintenant, il n'y a plus de podcast. C'est sur YouTube. Donc si vous n'aimez pas nous voir, vous écoutez, vous mettez le casque, vous retournez le téléphone. Mais désolé, mais c'est comme ça. On a suivi la stratégie dit qu'il faut aller sur YouTube. On va sur YouTube, on va dire la même chose, en gros.
Oui,
en
mieux. Ce sera la même chose, en mieux, parce qu'on a un an de plus, donc on a du recul, on a tout plein de choses. L'année dernière, si vous nous avez écouté du début de la saison, vous avez à peu près dit ce qui allait se passer, c'est-à-dire que moi j'avais dit que le PSG serait meilleur, que le PSG gagnerait avec des champions. On a dit ici, dès le mois d'août, que Luis Enrique avait la bonne attitude.
Faudrait faire ça.
Vous faites bien de nous suivre.
Alors moi, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'ai dit que le PSG pouvait être meilleur sans Mbappé.
Ouais.
Alors honnêtement, faut être honnête, je ne pensais pas qu'il gagnerait la Ligue des Champions. Mais
moi, j'ai toujours cru.
C'est l'année de la maturité, là.
Ouais, c'est l'année de la maturité.
Et l'année des intros, très longue.
Ouais, très longue. On va peut-être démarrer, d'ailleurs. Ouais, on démarre.
On va parler de quoi ? On va parler du Paris Saint-Germain.
Ouais.
Pour commencer, il jouera dimanche le Paris Saint-Germain à Lens. 4e journée du championnat. Et avec 2 blessés, Dembélé et Doué. Alors, on va revenir un peu là-dessus, sur la passe d'armes qui a opposé Paris Saint-Germain à l'équipe de France. Mais on va se poser la question si le PSG n'est pas déjà à une forme de point de rupture, aussi bien sur les organismes que mental, finalement.
Ensuite, on parlera de la Ligue des Champions, qui démarre la semaine prochaine, et des prédictions d'Opta, vous connaissez tous Opta, qui nous disent que l'OM terminera 31e de la phase de poule derrière...
Pas fausse. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas fausse.
Voilà, exactement. Très bonne vanne. Il démarre très bien la saison. Et puis, on parlera de ces prédictions Opta. où franchement, on en parlera.
On en parlera. Et ils mettent Monaco 3e et le PSG 5e. Donc, on va essayer d'analyser tout ça. 23e, pardon. Ouais. Et puis, on parlera. Alors, normalement, c'est le deuxième sujet, mais je vois qu'il est passé en 3e. Donc, allons-y.
Lamine. Excuse-moi, c'est de ma faute. J'ai fait n'importe quoi.
Non, mais on va parler de Lamine Yamal en 3e sujet, avec sa petite phrase du jour. Je ne rêve pas de gagner un ballon d'or, je rêve d'en gagner plusieurs. Donc, on va se poser la question si Pépère, s'il n'en fait pas un peu trop depuis le début de l'été.
S'il ne commence pas un petit peu à nous agacer, un tout petit peu à nous agacer.
Titiller.
Ouais, à nous titiller. On l'aime bien, on l'aime beaucoup, Lamine Yamal, mais bon, on en parlera en fin d'émission.
Alors, le Paris Saint-Germain redémarre le championnat face à Lens dimanche à 17h15. Le Paris Saint-Germain qui sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, out pour 8 et 4 semaines. Donc, ils vont manquer une bonne partie de ce début de saison. La question, Martin, c'est est-ce que le PSG, est-ce que ça ne tire pas déjà sur les organismes? Est-ce que déjà on n'a pas atteint un petit point de rupture avec ce Paris Saint-Germain-là, qui, on le rappelle, n'a pas vraiment eu d'intersaison et pas vraiment de préparation?
C'est le problème. La saison du PSG s'est terminée le 13 juillet. Elle a repris le 13 août, donc déjà c'est très court. Paris a fait 65 matchs, a joué tous les matchs qu'il pouvait jouer la saison dernière. Il n'y a pas une équipe qui en a joué plus. Et n'a eu qu'une semaine, et c'est ça le point critique, qu'une semaine de préparation pour préparer la finale de Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Donc Paris va vivre une saison en sursis. Tous les entraîneurs, tous les préparateurs physiques, même les joueurs, vous diront qu'il n'y a rien de plus important que la période la plus cruciale et importante de la saison. C'est la préparation. C'est ce que nous, on ne voit pas. C'est ce qui se passe, en gros, de mi-juillet à mi-août. De mi-juillet à mi-août, les Parisiens, ils ont été en vacances. Ils ont repris trop vite, ça, c'est à peu près une certitude. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir une saison en sursis. Ça craque déjà. Doué et Dembélé, je rappelle, ce sont des blessures musculaires. Ce ne sont pas des chocs, ce n'est pas une cheville qui se tord, ce sont des blessures musculaires. Blessures musculaires, c'est surmenage, c'est effectivement mauvaise préparation, c'est tout un tas de facteurs qui peuvent les expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que ça tire et ça tire déjà fort. Donc oui, moi je vois plusieurs facteurs de risque dans cette saison du Paris Saint-Germain, d'autant que le PSG a très peu recruté, donc va tourner quand même sur un effectif, à l'échelle de la Ligue 1, c'est un effectif gargantuesque, gigantesque. À l'échelle de l'Europe, quand on voit ce qui s'est passé à Liverpool, quand on voit ce qui s'est passé à Arsenal, quand on voit même ce qui s'est passé du côté de l'Inter Milan, le dernier finaliste avec des champions, il y a eu plus de mouvements, il y a des effectifs qui ont un peu gonflé. Paris a fait quasiment du poste pour poste, Donnarumma à Chevalier. Ils ont recruté un défenseur central, mais malgré tout, voilà, on reste sur un effectif au périmètre similaire à l'an passé. À partir du moment où il y a deux joueurs qui se pètent, ça veut dire qu'on va un peu plus insister sur Kvara, un peu plus insister sur Barcola, un peu moins faire tourner. Donc oui, on va être sur un effectif à flux tendu et il y aura plus de risques que la saison dernière, c'est certain.
Ouais, vendredi avec les Bleus, donc le PSG en 25 minutes a perdu le futur Ballon d'Or, a priori, celui que je pense qui sera Ballon d'Or, et peut-être celui qui peut être élu meilleur jeune espoir de la saison dernière. Donc c'est évidemment un énorme coup dur. Alors, on ne va pas revenir sur la faute qui est partagée entre Didier Deschamps, peut-être, et le staff d'équipe de France qui ont fait jouer Dembélé un peu trop vite par rapport à sa sortie à Toulouse. Mais Doué, dire que ce n'est pas la faute, n'a pas de chance, mais là, on peut se poser la question justement de l'enchaînement, surtout que c'est un joueur qui est jeune, et on a fini par l'oublier. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un corps et un physique qui est rompu encore ou joue du haut niveau à cette échelle. Le choix qui a été fait, c'était de ne pas trop recruter, tu l'as dit, Zabarni, Chevalier, Renato Marine. Sur le papier, ça fait léger, mais ça a du sens quand on y pense bien, parce que le PSG est une équipe qui a gagné enfin la Ligue des Champions. Le Real Madrid a enchaîné des C1 sans aller renouveler leur effectif. Et c'est peut-être vrai qu'il y a cette ambition, et qui est logique, parce qu'on le reproche au PSG avant, c'est-à-dire la stabilité. Stabilité, équipe jeune qui peut encore progresser. Et peut-être qu'aussi, dans un coin de la tête du board parisien, la C1 ayant été gagnée, pas forcément une obsession pour cette année. Donc, en gros, c'est de maintenir un niveau de performance qui sera suffisant. Mais c'est vrai que ça fait juste, et notamment sur un poste qui est pour moi marquant, celui de latéral droit. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, latéral droit, il y a Achraf Hakimi, qui est le joueur qui a été le plus utilisé l'année dernière par le Paris Saint-Germain, avec son équipe nationale aussi, qui va jouer la CAN cette année et qui n'a pas de remplaçant. C'est-à-dire que si vous cherchez un latéral droit, vous faites passer qui ? Zaïre Emery, voir Neves à ce poste-là. Donc déjà, vous déplacez un joueur. Alors, Zaïre Emery, ça serait moins gênant. Mais imaginez que dans le même temps, il y ait un milieu de terrain qui soit out. Ça posera problème. Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est un Paris Saint-Germain qui évolue à flux tendu. Alors, la Ligue 1, Oui. Et bon, ils peuvent jouer à flux tendu, ils peuvent même mettre 4 joueurs de moins, ça suffira largement, voilà, c'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est ainsi. La Ligue des Champions, l'année dernière, c'est pas série crack, mais même si, on en reparlera tout à l'heure, le tirage, moi je le trouve plus dur cette année pour le Paris Saint-Germain que l'année dernière, il peut y avoir des problèmes, mais une fois qu'ils ont passé ça, il y a la trêve, et souvenez-vous que si le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, c'est aussi grâce à la trêve et Kvaratskhelia. Donc le PSG s'est aussi donné, c'est qu'en allant chercher, en mettant du pognon sur un gros joueur à la mi-saison, ils peuvent aussi se rattraper. Maintenant, ce qui est dur, tu l'as dit tout à l'heure, 65 matchs l'année dernière. L'année d'avant, c'est une équipe qui a joué tout sauf un match, c'est-à-dire la finale de Ligue des Champions. Donc depuis que Luis Enrique est arrivé, le PSG n'a pas joué qu'un match qui était sur sa liste, la finale de 2024. Résultat, on est sur une saison inédite. Et en fait, bien malin celui qui peut savoir ce qui va se passer. Parce que là, on a l'impression que les joueurs ont enchaîné deux saisons. Et tu l'as dit, la préparation. Il n'y a pas eu de préparation. Moi, c'est trop court. Et quand vous regardez les premières journées, je trouve que Luis Enrique est quand même assez vite revenu à son équipe type.
Ouais.
Donc je pense que ça peut être problématique. Et le PSG, en fait, va évoluer, je pense, pendant toute la saison, ou au moins sur la première partie de saison, sur un fil.
Ouais. Ce qui se passe en septembre, en plus, a souvent quand même une incidence. C'est-à-dire qu'on peut se dire, Dembélé blessé, même si Paris joue l'OM, même si Paris va jouer des grosses équipes en Ligue des Champions,
oui.
A priori, ça passe, c'est pas très grave. Mais Dembélé est un joueur, dont on le sait, qui doit être à 100% de ses capacités physiques pour avoir la lucidité, pour faire la saison qu'il a fait la saison dernière, en fait. On sait que c'est un joueur qui est fragile et on a eu tendance à l'oublier ces dernières années parce qu'à Paris, effectivement, il a été relativement épargné par les blessures. Mais à Barcelone, il les a enchaînés. Alors, il a une nouvelle hygiène de vie, il y a plein de choses. Mais malgré tout, c'est un joueur qui est impassif. Se dire qu'il est blessé dès le mois de septembre sur une blessure musculaire, déjà petite alerte face à Toulouse, il rechute en équipe de France. Oui, il ne démarre pas la saison dans les meilleures conditions. Et je parle pour le PSG, mais je parle aussi pour la Coupe du Monde en fin d'année. Ce qui se passe aujourd'hui aura fatalement une incidence. Je ne dis pas qu'il va être pété, qu'il va être sur le flanc, qu'il va se briser tous les trois mois, mais qu'il va avoir besoin à un moment ou à un autre de souffler pour se régénérer Dembélé parce qu'il en a vraiment besoin. Sur, effectivement, moi j'aime bien quand même quand un effectif se régénère un petit peu. Effectivement, l'exemple du Real Madrid est très bon, puisque je l'avais noté. Quand ils sont entre 2016 et 2018, ils gagnent 3 Ligues des Champions. Et sur ce laps de temps-là, ils recrutent Morata, Théo Hernandez, Casimiro, Danilo et Kovacic. C'est pas beaucoup.
Oui, mais...
Sur 6 mercato, c'est pas beaucoup. Ça ne les empêche pas de gagner 3 Ligues des Champions. Ils recrutent des joueurs qui deviennent centraux, surtout Casimiro qui devient absolument central. Mais en 3 ans. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Malgré tout, je pense que c'est toujours bon d'instiller un peu de compétitivité. Les joueurs du Real, c'était tous des morts de faim. On ne va pas reparler de Ronaldo. Ils n'avaient pas besoin de compétitivité. Mais malgré tout, je trouve que c'est toujours bien de mettre un petit coup de fouet, même si cette équipe a tout gagné l'an dernier, sauf la Coupe du Monde des clubs. Mais enfin, bon, bref, on va pas insister là-dessus. C'est toujours bon quand même de régénérer, de réoxygéner un effectif, un mot cher à Didier Deschamps, de réoxygéner un effectif qui peut un petit peu baisser de pied dans la saison qui suit.
Il manque un cadre en fait dans ce recrutement. Il manque un joueur un peu marquant qui va apporter un peu d'oxygène et apporter
même
un plus.
Même si Chevalier peut l'être, c'est pas qu'il peut l'être, mais
c'est un gardien, donc c'est un peu à part. Voilà. Et puis il fallait, là c'était vraiment, c'est presque un choix philosophique qu'il a fait, donc c'est un plus évidemment sans doute sur le dans le jeu au pied. Mais ça s'équilibre avec ce que Donnarumma a apporté. Il y a Kylian Mbappé qui a dit quelque chose de très intéressant cette semaine en équipe de France. Alors lui, pour le coup, il est sur une saison où il a eu une vraie préparation. Et en gros, c'est la première fois depuis 2 ans, puisqu'il y avait eu le loft. Et puis l'année dernière, son arrivée au Real qui a été précipitée, etc. Il a dit quelque chose d'intéressant et qu'il va falloir vraiment, à mon avis, respecter pour le PSG. Lui, il ne se plaint pas de jouer. Il dit 65 matchs, ce n'est pas un problème. En revanche, il explique que il faut des plages de repos dans la saison. Et en fait, il explique, à la différence d'un Koundé qui dit, lui, non, on joue trop, ce qui est un peu la tarte à la crème, mais on n'arrive pas finalement à savoir si c'est vrai. Et peut-être que Mbappé, c'est lui qui a raison, c'est-à-dire qu'on peut peut-être s'inspirer de ça, c'est-à-dire que oui, ok, jouez vos 60 matchs, mais il faut que dans votre effectif, il y a des gens qui aient des plages de récupération pendant la saison, surtout quand vous n'avez pas fait de travail foncier, parce que vous n'avez pas de moment dans la saison où vous allez pouvoir rattraper ces 3 semaines qui sont importantissimes, pendant lesquelles vous touchez peu le ballon au début, pendant lesquelles vous régénérer votre corps et vous créer, on va dire, le moteur pour la saison à venir. Il n'y aura pas de moment. Donc, à défaut de faire ça, il faut espérer que le moteur ne se décharge pas trop vite. Et pour faire ça, bah, il faut des plages de récupération pendant la saison. Sinon, c'est sûr qu'à un moment, ça pète.
Et il va y avoir la Coupe intercontinentale aussi pour les nageurs. Je crois que c'est qu'un match.
Ouais, ouais, ça, après, ça, c'est
qu'un match. Peanuts, mais... ouais, voilà. Mais malgré tout, tu vois, ça va quand même rajouter et alourdir un calendrier qui est déjà avec la nouvelle Ligue des Champions, qui est déjà gigantesque. Donc, ouais, moi, je pense que Paris va vivre une saison en sursis. Je ne pensais pas que ça pèterait si tôt, mais bon, on espère que ce sera les seuls, mais je suis à peu près sûr qu'il y en aura d'autres.
Et pour le coup, on a des chances. La Coupe du Monde des clubs, on l'a vendue comme une compétition quadriennale. Ça va vite passer à 2 ans, parce que les clubs sont contents.
On ne parle pas de malheur.
Donc, on est sur des années impaires où il n'y a pas besoin de jouer. Donc, peut-être pas dès 2027, mais je pense qu'à partir de 2029-2031, vous aurez une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc, vous allez être dans des rythmes qui vont être encore plus importants. Et dans lesquels bah, les clubs vont avoir besoin de plus en plus de joueurs parce qu'ils ne pourront pas tenir sans tirer sur la corde pendant tout ce temps.
Maxime, on va parler de Lamine Yamal.
On va parler de Lamine Yamal, même si on a annoncé que c'était.
Ouais, mais on va le faire en sujet, on s'en fout.
Allons-y, moi je tourne ma feuille. Alors, puisque...
Lamine Yamal, qui est à peu près aujourd'hui, je dirais, le seul concurrent au sacre d'Ousmane Dembélé dans quelques jours, 10 jours, une dizaine de jours.
J'aurais aimé qu'il y ait Achraf Hakimi.
Ouais. Et bon. A priori, ce sera Yamal, Yamal Dembélé.
Ce sera Dembélé.
Et Yamal qui a encore déclaré, c'était
hier,
enfin, jeudi. Je ne rêve pas d'avoir un ballon d'or, je rêve d'en avoir plusieurs.
Moi aussi.
C'est ce que je dis à mes amis, j'en ai les capacités. Ça, tu ne dois pas le dire par contre. Et si je n'y arrive pas, c'est que je n'aurais pas bien fait les choses. Lamine Yamal qui a beaucoup parlé ces derniers mois, qui a un peu fait parler de lui par quelques polémiques aussi, qui a fait quelques stories Instagram un peu provocatrices envers ses adversaires. Maxime, ma question, elle est simple. Est-ce qu'il en fait trop?
Alors,
et est-ce que ça pourrait lui coûter le ballon d'or aussi?
Alors, première question. Alors déjà, si j'étais au bac de français, que je prenais cet enchaînement de phrases, je dirais qu'il oscille entre une confiance presque aveugle, mais avec un peu de... Il n'y a pas de condescendance là-dedans. C'est-à-dire qu'il explique que si je n'y parviens pas, c'est que je n'ai pas bien fait les choses. Donc, d'un autre côté, il dit, voilà, je pense que j'ai le talent. Il est conscient de son talent qu'on voit tous les jours. Mais d'un autre côté, voilà. Et puis, je serais très heureux, mais je dois gagner avec mon équipe. Donc, il oscille entre les deux. N'empêche qu'on est sur une séquence, comme on dit en politique, où Lamine Yamal en fait un peu beaucoup. Et surtout, on a l'impression qu'il change un peu le logiciel. Il y a eu cette phrase avant la Ligue des Nations, en gros. Alors, ça a été un peu sorti de son contexte, c'est vrai, mais où il dit, en gros, si c'est le duel pour le Ballon d'Or, allons-y. Alors, il a transformé une demi-finale de Ligue des Nations, qui est une sous-compétition, en duel absolu de 1 contre 1 contre Dembélé. Ils n'ont qu'à se mettre sur un 5, s'ils veulent, ils se mettent tous les deux, on leur met 2 gardiens, et puis ils jouent le truc. Donc voilà. Il a 18 ans. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que j'espère qu'il ne va pas devenir Neymar. Voilà. C'est que ce côté un peu.
Non, ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de Neymar.
Non, mais il y a ce côté, c'est un joueur fantastique.
On en vient toujours à Neymar. Avec
on
pour ceux qui nous rejoignent, s'il y en a qui nous rejoignent, qui nous ont jamais vus sur YouTube, Neymar reviendra régulièrement. Qui joue pas dans la bouche de.
Vous regardez les images de Turquie-Espagne, c'est formidable. Il est là, il est sur son côté droit, c'est exceptionnel, c'est un régal. Mais j'ai un peu peur des fois, c'est plus quand il ouvre la bouche qu'il dise des bêtises. Et il y a eu sa fête du mois de juillet, au mois de juin, l'anniversaire, qui n'est pas très bien passé. Et là, où il dégonfle complètement le truc. Voilà, moi, ce qui me dérange, c'est un peu ça. Et je vais ajouter un truc, c'est que combien de mecs, je vais aller chercher tout à l'heure, on dit je veux gagner le ballon d'or. Lui, en plus, il ne veut pas en gagner, il veut en gagner plusieurs.
50.
Paul Pogba, Mbappé déjà, mais eux n'ont jamais dit plusieurs, ils ont dit je veux gagner le ballon d'or. Tu vois, c'est une première chose, et ils ne l'ont pas gagné. Pour Pogba, à mon avis, c'est râpé. Ryan Cherki l'a dit, avec Manchester City, Mohamed Salah l'a dit, Trent Alexander-Arnold l'a dit, Achraf Hakimi en a parlé, Erling Haaland en a parlé, Lautaro Martinez en a parlé, en passe, c'est des meilleurs, mais ça veut dire que là, ça va faire beaucoup de ballons d'or à se partager, s'il veut en gagner plusieurs. Non, mais je pense tout simplement qu'il est jeune, mais je pense que ça comme mériterait d'être un peu plus contrôlé, voilà. Et notamment, pas que pour le Ballon d'Or, mais aussi tout l'épisode de sa fête anniversaire. On est passé, en fait, de la fraîcheur à une espèce d'assurance décomplexée qui ne passe pas bien. Et pour revenir à la polémique de son anniversaire, il dit quand même, j'ai trouvé ça drôle, ils ont essayé de me salir de toutes sortes. Non, t'as fait une connerie, donc il faut l'assumer avant.
C'est une parfaite transition. Parce que pour moi, Lamine Yamal, je ne veux pas en faire des tonnes sur lui. Encore une fois, il a 18 ans, c'est un mec qui est un peu hors cadre, qui chambre sur les réseaux sociaux ses adversaires, et même la décla sur Dembélé.
Oui. On va dire que c'est ses codes.
Il a 18 ans, c'est ses codes. En Espagne, on en a fait tout un foin à Ramos, parce qu'il est venu en conférence de presse avec les cheveux peroxydés, la casquette à l'envers. Et ça va. on va se détendre. C'est, en fait, ça, c'est le monde aujourd'hui dans lequel on vit, et particulièrement dans le football, où on va monter les gars pendant... on va les monter au sommet, et dès qu'il va y avoir une petite dissonance, une petite erreur, une petite chose, tous les jaloux vont le fracasser, et même, voilà, ça va s'emballer de l'autre côté. Donc, on va rester très calme, on va prendre du recul par rapport à ça. Par contre, il y a quand même le ministère espagnol des droits sociaux qui réclame l'ouverture d'une enquête.
On est passé dans le 20h.
Non, mais après cette soirée polémique, ouais.
Ah oui.
Avec les artistes nains, voilà, et qui, voilà, ça porte un peu, enfin, ça porte, ils considèrent que ça porte atteinte à la dignité humaine. Donc ça, c'est autre chose, par contre. Ça, pour moi, c'est autre chose. Et ça, dans la course au Ballon d'Or actuel, hein, dans ce qui nous attend dans quelques semaines, dans le verdict, ça peut peser. Parce que dans le troisième critère, bah si, Maxime.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Pardon. Dans le troisième critère, t'as la classe et t'as le fair play. Je pense qu'effectivement, cette histoire-là altère un petit peu l'image de notre ami Lamine Yamal et que ça peut lui coûter quelques points, quelques voix. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une première chose. Après, tout ce qu'il y a à côté, tout l'apparat, tout ce qui se donne, l'image qui se donne. Moi, en vérité, oui, d'un côté, tu as à 18 ans des robots qui parlent parce qu'on leur a dit ce qu'ils devaient dire, qui sont attachés par, effectivement, de la com, etc. Et puis, tu as Lamine Yamal qui dit un petit peu ce qu'il pense, qui est un peu hors des sentiers battus. Je ne pense pas qu'il faille condamner ça. Oui, il y a une petite exaspération. Il commence un petit peu à être critiqué, mais enfin, franchement, il faut pas aller voir plus loin que ça. Moi, je reste... moi, c'est un joueur que j'adore déjà sur le terrain. Et en plus, il faut rester très mesuré vis-à-vis de ça. Il a 18 ans. 18 ans, Maxime.
Ouais. Ouais, ça excuse pas tout, mais en effet.
Non, mais...
Alors oui, j'ai pas répondu à la question, est-ce que ça peut lui coûter le Ballon d'Or ? Alors, pas cette phrase-là, puisque les votes, c'est terminé. Ou si c'est pas terminé, il en reste très, très peu. De toute façon, pour moi, il doit pas être Ballon d'Or. Donc, voilà.
Donc, toi, c'est
vrai. Voilà, c'est pour moi.
Mais
c'est...
le troisième critère est important quand même.
Oui, là, alors, il est. Alors,
si tu prends les trois, entre Dembélé, qui l'a pas ramené depuis la finale des champions, qui quasiment. Ouais, ou Hakimi. Mec, font pas campagne, ils restent très collectif. Et lui, alors, qui roule problème, un peu les mécaniques.
Le problème, c'est que c'est un critère qui eût compté, notamment en 2001, avec le coup de boule de Zidane contre Hambourg en Ligue des Champions. Est-ce qu'il compte toujours ? En fait, j'ai pas d'exemple récent qui me font penser que ça a joué. Alors, peut-être Vinicius, peut-être son comportement sur le terrain un peu, parfois un peu chambreur.
Mais si on enlève un ballon d'or pour de la chambre.
Non, mais je sais même pas, c'est pour ça que je te dis, je sais même pas, j'ai beau chercher. Alors, avant Messi, Ronaldo, c'est réglé. Messi chambrait pas ou de manière très discrète. Ronaldo, il fait le cador, mais c'est plus pour lui qu'à l'extérieur. Modric, c'est pas vraiment un chambreur. Benzema n'est pas vraiment un chambreur. Rodri, j'en parle pas. Je suis pas certain que c'est joué. Même avant, Kaka, compagnie, tous ces joueurs-là, Cannavaro, il n'y a pas de chambreur. Enfin, voilà. Je sais pas. C'est dur de savoir. Et le dernier, je pense, qui a perdu le Ballon d'Or sur le fair play, c'est Zidane. Voilà. Ouais. Enfin, ou sous-entendu, il aurait perdu. Maintenant, je sais pas si c'est un critère qui compte encore, mais...
Mais là où tu as raison, et c'est vrai... Quand il dit les ballons d'or, les trois, Mbappé, il a 26 ans.
Ouais.
Haaland, il a 25 ans. Vinicius, il a 25 ans. Les mecs qui n'ont pas de ballon d'or.
Oui,
alors qu'il y a, pendant le Covid, on ne parlait que d'eux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se disait, ça va se séparer. Ronaldo, Messi vont laisser place à Mbappé, Haaland. On ne parlait que de ça.
Qu'on ne parle presque plus actuellement de Haaland.
Oui, c'est vrai.
Très peu. Ouais. Il vient de mettre son quintuplé avec la Norvège.
Ouais.
On en parle. Les modes, c'était le duel. On a voulu grimper le duel Haaland-Mbappé. Mbappé, on l'a toujours. Après, c'est le prisme français du Real Madrid. On suit Mbappé. Le Manchester City va moins bien. On ne parle plus beaucoup d'Haaland. Voilà.
Et donc... puis, ils n'ont jamais vraiment été dans une discussion franche pour être Ballon d'Or.
Ouais, podiumable avec
jamais...
2022.
Oui, mais jamais numéro 1. Franchement. Mbappé.
Pas franchement, mais 2022, il exhibe bien la Coupe du Monde.
Oui. Mais malgré tout. Alors que Rodri, Dembélé.
Ouais.
Benzema.
Mais
Benzema, mais Modric, c'est quand même quatre mecs.
Mais en fait,
a priori,
on revient à l'essence du Ballon d'Or. C'est-à-dire que des années 90, vous avez évidemment des joueurs énormes, mais il y a très peu de doublés. Il n'y en a même pas, je crois, dans les années 90. Et en fait, c'est le vrai joueur de l'année. Ouais. À l'époque, c'était l'année civile. Qui gagne, c'est-à-dire qu'une fois c'est Baggio, une fois c'est Sjoukov, Van Basten, Guaya, etc. Ronaldo, Zamer, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous êtes sur un... Ça se succède. ça rappelle, après l'hystérie qu'il y a eu de 10 ans entre Messi et Ronaldo, ça rappelle combien gagner déjà un ballon d'or est exceptionnel, combien en gagner deux de suite, c'est formidable.
Alors, on gagne 6, on gagne 7,
et 8,
12. On y va, Maxime, troisième sujet. Troisième sujet, on va parler, parce que c'est un peu ce qui va nous obséder la semaine prochaine, c'est quand même la reprise avec des champions. On est content. Même Maxime, depuis que vous voyez là, le plus gros conservateur de l'histoire de ce sport, a été plutôt charmé, j'allais dire convaincu, c'est peut-être un peu...
Pas si mal.
Charmé par la nouvelle mouture de la Ligue des Champions.
Même si c'était un peu la foire, la fin du point étoile.
Un peu la foire, évidemment, parce que Maxime, tout est un peu la foire. Mais la dernière journée est quand même très sympa. Oui, mais c'est nous offre des affiches sympathiques.
Oui, oui, ça oui.
Franchement, on a été convaincu, Maxime, alors qu'on est... étais le premier à démonter la...
Même si ce qui me gêne toujours, c'est les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, parce qu'il fait plus de pognon et que...
Bref.
On fait plaisir à Paphos, mais on fait surtout plaisir aux clubs qui ont le plus de pognon. Mais bon, bref.
Et donc, Opta fait ses prédictions, Maxime,
ouais,
pour la saison à venir. Et nous allons discuter les prédictions d'Opta pour la saison, pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Ça ne s'appelle pas phase de poule.
Phase de groupe, oui.
Phase de groupe.
Ah oui. Voilà, phase de ligue, saison régulière.
Merci. Et donc, dans ces prédictions-là, principal fait saillant, qui nous interroge en tant que Français, l'OM est 31e.
Ouais.
Donc, non qualifié pour les barrages. Derrière Paphos, notamment.
Derrière Paphos.
Alors, Maxime, est-ce que tu vois Marseille buter sur
Paphos ?
Non, sur cette phase de ligue. Et donc, ne même pas aller en barrage ?
Alors, il faut déjà savoir que la prédiction Opta évolue au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que ça va évoluer après les matchs de ce week-end, etc. Et si j'ai bien tout compris, c'est vraiment un mixte de données qui vont aussi bien en donner des joueurs, résultats précédents.
Sens du vent, non ?
sur le passé, parfois les cotes, etc. Donc il y a vraiment des centaines de notions qui sont mises ensemble, et derrière on a un algorithme qui ressort ça. Donc en effet, ce ne sont que des mathématiques. Maintenant, est-ce que j'ai été choqué en voyant l'OM 31e ? Alors un petit peu quand même, parce que c'est quand même assez bas.
C'est pas du tout ce que tu nous as dit en de l'émission, mais c'est pas grave.
Attends, laisse-moi finir. Ouais. Ils sont derrière Paphos. Quand vous regardez les calendriers des deux équipes, le calendrier de Paphos,
club chypriote. Hein.
Oui, mais le calendrier est plus facile que celui de l'OM, qu'on le veuille ou non.
Ouais, bah oui.
Il y a des équipes plus simples à jouer.
Bah ouais, mais bien sûr. Bah ouais,
est-ce que, en fait, la question, en fait, au-delà de ça, avec ce 31e, 22e, 25e, 26e, c'est est-ce que l'OM peut buter sur le premier tour ? Alors, je vais vous dire, butera peut-être pas, mais c'est possible. On va faire quand même, parce qu'en fait, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on parle de mathématiques, on va parler du contexte. On ne va pas revenir à Jonathan Rowe. Adrien Rabiot, mais vous regarderez quand vous regarderez cette émission, Marseille-Lorient aura peut-être été joué. Vous comparerez l'équipe qui va jouer ou qui aura joué contre Lorient avec celle qui a joué contre Rennes. C'est-à-dire que l'OM débute sa saison ce vendredi avec deux défaites, et l'OM dans 4 jours jouera le Real Madrid et enchaînera le dimanche prochain face au Paris Saint-Germain. Donc en effet, l'OM est déjà dans une zone de turbulence avant même que la Ligue des Champions ait commencé, et dans un monde qui ne serait pas surréaliste, il y a Strasbourg derrière. Imaginez que ça se passe mal contre le Real, contre le PSG, contre Strasbourg. Derrière, c'est l'Ajax au Vélodrome. Alors, vous allez me dire, l'Ajax au Vélodrome, ça passe ? Oui, ça peut passer. Sauf qu'à mon avis, le public sera un peu énervé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on souhaite que l'OM fasse mieux, qu'ils arrivent à effacer le trauma de la Ligue des Champions sur la dernière décennie. Puis, la dernière fois qu'ils passent un premier tour, c'est en 2011-2012 avec le quart contre le Bayern. Il y a eu les 13 défaites d'affilée. En fait, la Ligue des Champions est devenue presque un trauma quand elle arrive. Il y a autant d'excitation que de crainte. Et quand vous voyez le Real Madrid, pour commencer, vous enchaînez contre le PSG en championnat, il y a l'Ajax derrière et Strasbourg entre les deux, vous dites que ça peut mal tourner. Mais que Opta, encore une fois, mettre l'OM derrière Paphos, quand je vois les deux calendriers, je pense que ce n'est pas complètement délirant, surtout le contexte actuel.
On va arrêter les conneries de minutes. Non, mais
donc, je le souhaite pas.
Paphos. Donc, je suis allé voir quand même Paphos, parce que je vais quand même parler d'un peu... Enfin, j'ai envie de...
Taf.
Non, mais... Il faut que j'apporte des éléments.
Et après, on parlera de l'effectif de l'OM, je sais.
Pas fausse, donc. L'an dernier, ils ont perdu au premier tour de la Ligue Europa contre Elfsborg.
Oui.
Puis en 8e de finale de Conference League contre Djurgården Gardens.
Oui. C'est quand même pas sérieux.
Non, mais voilà, ça te met le niveau de l'équipe. Pas fausse, donc. Tu me dis que c'est tapis rouge, mais même ils peuvent la gagner, la Ligue des Champions. Donc écoute bien. Au premier tour, ok, l'OM joue le Real. Effectivement, ils ont un calendrier chargé. Personne ne te dit le contraire. Pas fausse. Joue Chelsea, la Juve, Monaco, Villarreal, le Bayern. S'il y a un monde.
Tu peux me dire les autres adversaires ?
Non, mais s'il y a un monde où Paphos prend des points contre ces équipes-là, Ah ouais, bon, ouais, non, Monaco, mais, ok, non, mais d'accord, ok, très bien. Donc,
on... Mais non, mais tu me donnes.
Non, 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 attends. Le calendrier de l'OM, l'OM joue aussi, alors il joue le Real, il joue les clubs difficiles, il joue aussi l'Ajax, le Sporting, l'Atalanta, Newcastle, l'Union Saint-Gilloise et Club Bruges.
T'as oublié Liverpool.
Mais bien sûr, Liverpool. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une chance que Marseille prenne un tout petit peu plus de points qu'un club qui a zéro expérience en Ligue des Champions, qui joue dans le championnat chypriote.
Oui.
Et qui va jouer quand même deux, trois petites références.
Oui, et deux adversaires qui sont très prenables avec.
Non, mais d'accord. Non, mais
ce que je veux dire, c'est que. C'est...
Attends, non, je peux terminer.
La Ligue des Champions actuelle fait que tu ne rencontres pas les mêmes adversaires et que tu peux, indépendamment de ce que fait ton concurrent.
Okay. Mais quand même, il y a tout le monde qui rencontre des gros à un moment. À un moment,
il y a tout le monde qui rencontre des
gros. Marseille, je veux revenir là-dessus. Que Marseille ait un calendrier compliqué, ok. Que l'historique de l'OM en Ligue des Champions invite à la prudence, à minima. Ça, on est bien d'accord. Que le début de saison de l'OM trace une trajectoire un peu
sinueuse,
d'accord. Que Marseille ait perdu son meilleur joueur, ça, je te le conseille aussi.
Ça commence à...
Ouais, non, mais ok. Après, pour un Rabiot, un Rongier et un Merlin de perdu, tu récupères une défense qui était quand même un des énormes points faibles de l'OM. Non, mais attends, ce n'est pas que tu récupères un défenseur. C'est que tu récupères un défenseur du finaliste de la Ligue des Champions, champion du monde, Benjamin Pavard. Je pense qu'en Ligue 1 et même en Ligue des Champions,
mais je le souhaite.
Le taf, pardon, à Gerd, qui a joué l'an dernier. On a regardé ses stats avant de préparer l'émission. C'est quand même pas trop mal. Et qui était très bon en Ligue 1, on se souvient, avant de partir en première ligue, qui connaît la Ligue 1. C'est pas, ils vont pas recruter un prospect dans le championnat néerlandais de 17 ans.
Vas-y.
Medina, qui était une quand même des assurances tout risque depuis certaines saisons à Lens, qui va apporter aussi ce qui peut manquer parfois à l'OM, ce côté guerrier, le côté leadership aussi, etc. T'as Hüschberg, t'as Gomez. Ils font revenir Aubameyang, qui pour lui, lui pour le coup, fait un très bon début de saison. Devant, c'est un peu meilleur. Derrière, c'est bien, bien meilleur. Et au milieu, effectivement, t'as perdu Rabiot. Et malgré tout, je pense que l'OM a un meilleur effectif que la saison dernière, ce qui pourrait leur permettre à minima d'être devant Paphos à la fin de la saison.
Mais au-delà de
on verra Paphos.
Là on va je vais déborder du sujet parce que c'est pas tant en fait Paphos là on s'en fout. C'est la trajectoire de l'OM qui me perturbe un peu.
Donc en disant Paphos on s'en fout, je pense qu'il valide un peu mes arguments et qu'il se dit OK, Martin il a gagné sur ce terrain. Mais heureusement, j'ai envie de te dire.
Et vraiment je le souhaite pas.
Heureusement.
Mais il faut pas que ça arrive un peu. Ok, super. T'as raison, t'as cité les noms. Maintenant, j'espère juste que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille va faire jouer ses joueurs à leur bon poste.
Oui, mais ça...
C'est-à-dire que Medina, déjà, va se retrouver arrière-gauche. Alors, ok, il peut jouer à gauche, mais a priori, c'était pas le plan. Qui me dit que Pavard va pas se retrouver arrière-droit, poste qu'il n'aime pas forcément en équipe de France.
Donc j'étais champion du monde à droite. Donc...
Oui, mais il aime pas ça. Là, il t'a pas échappé.
Je sais.
Moi, c'est deux Zerbi qui me crispent.
Voilà. Mais est-ce que, alors, je vais te poser une autre question. Est-ce que simplement sur l'effectif, et si tu fais fi de toutes tes considérations, de l'affect que tu y accordes, c'est-à-dire sur Longoria, sur De Zerbi, mais juste l'effectif, les noms, cette année par rapport à l'an dernier, est-ce que pour toi, l'effectif a progressé ou non ?
Alors, l'effectif ou les noms ?
Oui ou non ?
L'effectif ou les noms ?
Non, l'effectif.
Bah, les noms, c'est bien, Medina, mais encore à condition de les faire jouer à leur bon poste.
Oui, non, mais.
Non, mais si, c'est ça.
Oui, je te parle.
Tu peux avoir la meilleure équipe du monde, l'équipe de France, on en l'a dit 10 fois, ils ont la meilleure équipe du monde, ils vont être champions du monde, ils vont être champions d'Europe, ils ne sont pas champions d'Europe.
Et ils ont été une fois quand même champions du monde, donc c'est pas mal aussi.
Non, mais ça, à l'époque, oui, mais c'est pas exactement.
Est-ce que l'effectif est meilleur cette année ou pas ?
Je te le dirai quand je les verrai jouer. Je n'ai pas vu cet effectif jouer.
Oui.
Le problème, c'est ça, c'est que là, on arrive, on est vraiment.
Parce que là, on ne fait pas d'émission.
Eh ben oui,
Non, mais.
Moi, j'ai vu une équipe qui a commencé le championnat, qui s'est auto-sabordée. Pour une histoire lunaire de bagarre, d'ailleurs, vous remarquerez que, vous le savez peut-être, que Rabiot, aujourd'hui, à sa conférence de presse, a dit que Jonathan Rowe était un bon mec. Donc, il va falloir regarder Milan-Bologne pour voir s'il n'y a pas une accolade, parce que là, cette histoire est lunaire. L'OM s'est mis un énorme caillou dans la chaussure, et c'est agaçant parce que l'OM, alors, on pourra dire ce qu'on veut de Rabiot, que ceci, qu'il est têtu, que.
Il était à peu près sûr
que ça ne se terminerait pas bien avec Rabiot, mais d'une manière ou d'une autre, il serait parti libre, etc. Mais là, quand même, il y a eu quelque chose qui a été créé qui est complètement lunaire, surréaction sur une première défaite et qui a mis l'OM dans la panade, finalement. Il n'y avait pas lieu. Ce n'était pas normal de perdre à Rennes à 11 contre 10, mais ce n'est pas normal d'en arriver là. Au bout de 3 journées, il y a 2 défaites. Et encore une fois, l'équipe qui va jouer contre l'Orient, qui va jouer contre le Real, contre le PSG, est une équipe qui ne se connaît pas du tout. Parce que là, on parlait de la préparation du PSG. La préparation de l'OM n'a pas existé. Alors, contre l'Orient, peut-être que ça passera. Je leur souhaite que ça passe contre l'Orient, contre le Paris Saint-Germain ou le Real, peu importe. Mais c'est compliqué. Je trouve que l'OM s'est mis un gros caillou dans la chaussure. C'est pour ça que le fond de ce sujet-là, c'est de dire qu'il y avait meilleure manière d'aborder la Ligue des Champions que ce qu'a fait l'Olympique de Marseille.
Je voulais juste parler des autres prédictions, oui. Peut-être. Alors, au-delà de Paris, tout ça, moi, il y avait une chose sur laquelle je voulais revenir. C'est Manchester City, 3e de la phase de Ligue.
Oui, mais ouais.
Non, mais
ouais,
Manchester City, 3e. J'ai regardé le programme. Real Dortmund, Villarreal, Naples. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, City, dans l'état dans lequel est le club, tape ces équipes-là avec les doigts dans le nez. C'est-à-dire que pendant un temps, ça a été une équipe qui effectivement dominait tout et cassait tout. Moi, je ne les vois pas guéris en ce début de saison. Donc, j'attends de voir. City 3e, je ne comprends pas. Sur Paris
Pareil. Paris 5e, pareil, je leur souhaite. Et logiquement, champion d'Europe, normalement, vous avez toujours une phase où ça déroule. Mais pour les raisons qu'on a décrites plus tôt, et un tirage au sort qui me paraît presque plus dur que l'an dernier, alors que l'année dernière, déjà, c'était corsé. Eh bien, si Paris se classe 5e, ce sera très bien parce que, encore une fois, ça me paraît aussi compliqué, et surtout l'an 2, c'est-à-dire cette année où les corps vont tirer. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Encore une fois, ce n'est qu'une prédiction et c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, à un moment, quand vous arrivez à la dernière minute du dernier match et que vous menez 3-0, vous avez 99% de chances de vous qualifier. Donc, c'est un peu ça aussi. Voilà, là, ça, c'est encore loin. Le Monaco 23e, du moins, je retiens barragiste, ça me paraît plausible aussi, voilà.
J'ai envie de te poser une question, tu l'as sans doute pas préparée, mais c'est pas grave, on y va quand même. Si tu devais donner ton favori à cette Ligue des Champions, si tu veux, je démarre avant, comme ça tu as le temps de réfléchir un peu.
Ouais, si vas-y.
Ouais, je démarre.
Vas-y.
Alors moi, je mettrais un groupe de 4.
Ah bah, ouais.
Bah non, mais un groupe de 4. Oui. Non, mais dans ces 4-là, qui ont tous des... J'ai mis des réserves pour chacun de ces 4-là. Je mets Liverpool et Arsenal. Mais je mets les mêmes réserves pour les deux, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même reconstruire une attaque et trouver des solutions avec de nouveaux joueurs qui sont déjà capitaux dans ce 11-là. Et donc, mais Liverpool-Arsenal, sur ce qu'ils ont fait cet été et sur ce qu'ils ont montré l'an dernier, en tout cas pour moi, le mercato est dans le bon sens et ça va être deux formations très, très, très compliquées, très complètes, du gardien jusqu'à l'avant-centre. Ensuite, je mets le PSG par... champion d'Europe. Et ma limite, ça va être quand même sur la gestion de la saison d'après, sur 65 matchs l'an dernier, on en a déjà parlé, et sur cette saison en sursis, c'est-à-dire que tu vas quand même beaucoup, beaucoup tirer, alors que tu as assez peu recruté. Et en quatrième, je mettrai quand même le Barça. Et comme limite, je mettrai aussi un effectif un peu court. Alors, ça peut faire... Voilà, mais malgré tout, je trouve qu'en attaque, c'est presque un peu court. Mais voilà, je mettrai ces 4-là. Avec le Real, pas très loin, même. Ouais. Mais je mets ces 4-là.
J'ai envie de voir ce que va donner le Real, parce qu'avec un Mbappé qui semble être redevenu ce que était Mbappé, d'ailleurs, au passage, à ceux qui disaient il ne reviendra plus.
Il est trop vieux. Et un autre Tchouaméni aussi.
Il a perdu de la vivacité, tout ça. Non, mais c'est juste deux saisons sans préparation. Mbappé est redevenu Mbappé. Voilà, on voit la différence, point barre. Et j'aime bien le Barça, mais j'ai un peu. Est-ce qu'ils ont réglé les problèmes de l'an dernier, c'est-à-dire être complètement open bar derrière? C'est le problème parce que offensivement, sur le papier, c'est fantastique. Voilà. Liverpool, très curieux aussi de voir parce que le recrutement, déjà, il y a une assise qui est pas mal. Il faut rappeler l'année dernière quand même qu'ils se font éliminer au tir au but face au PSG. Donc, dans un monde parallèle, peut-être que ça va un peu plus loin, beaucoup plus loin. J'aime bien l'idée, je mettrais Liverpool et le Barça en chapeau 1. Et derrière, je mets la cohorte PSG, évidemment, avec le Real.
Voilà. Arsenal.
Non, un peu plus bas, Arsenal. J'aime bien chapeau 3.
J'ai jamais aimé Arsenal, mec.
J'aime bien l'idée qu'ils aient pris un avant-centre.
T'aimes bien l'idée qu'ils aient mis un avant-centre, mais tu ne mets pas en favori. Mais qu'ils fassent quoi pour que tu mettes favori?
Qu'ils gagnent déjà le championnat d'Angleterre. Déjà qu'ils gagnent le championnat d'Angleterre, après on verra. Non, mais je pense que c'est une équipe qui va être. Je sais pas, bon, bref. Mais je les mets un peu en dessous,
On passe au quiz?
On passe
au quiz. Parce qu'on est sur YouTube, mais on conserve la mécanique, la mécanique du jeu, avec Quentin Guichard. On accueille Quentin. Comment ça va, Quentin? Les
Salut,
gens vont pouvoir te découvrir sur YouTube. Regarde, tu l'as vu,
c'est vrai. C'est exceptionnel. Je sais que c'était un grand mystère. Et je sais que beaucoup vont être déçus.
On l'appelle Gandalf.
Et beaucoup vont découvrir ta garde-robe.
Oui, voilà, c'est très, très sobre. T-shirt blanc pour commencer.
Question juste, combien tu dépenses par mois en fringues?
Ça varie des périodes.
Oui, mais dis.
Vraiment, ça va.
Beaucoup.
Ça peut être par mois, ça peut aller de 80 à 100 euros.
Oh, c'est pas terrible.
Non, mais faut juste.
Il faut juste bien choisir ses pièces.
Non,
tu nous trompes.
Non, je vous assure.
Ça coûte 200 balles, mais par mois, le mec, il met 80 balles.
C'est un t-shirt coton très simple.
80 balles seulement ?
Entre 80 et 100. Vraiment ?
Ta tenue Adidas, elle coûte pas 80 balles.
Elle coûte un tout petit peu plus de 100 euros. C'est une moyenne, il m'a demandé la moyenne.
Ah, bah tu vois, je pensais plus.
Ouais, mais c'est plus.
Ah, je suis déçu, là.
Moi aussi.
Ouais.
Allez, tu sors, tu t'en vas.
J'aurais pu vous mentir et vous dire 200 euros par mois, mais bon.
Donc, on est plus proche de ça. Allez, on le savait.
Bon, vous avez passé un bel été ?
Et toi ?
Ah bah, magnifique. Ouais, sur la côte bretonne, un temps exceptionnel.
C'est bien la Bretagne.
Du soleil.
Bilan carbone zéro, toi aussi.
Bilan carbone absolument zéro. De train, la SNCF.
Merci.
Nos amis cheminots.
Merci.
Bravo.
Merci.
Bravo à tous.
Ah bah, alors,
merci.
Figure-toi,
quelque chose à dire,
bah, j'ai pris le train tout l'été aussi. Le Shinkansen.
Allez. Bon, messieurs, là, c'est, ça y est, les frissons reviennent. Et avec eux, la plus belle des compétitions européennes.
La Coupe de France.
La Coupe des clubs champions, autrement dit la Ligue des champions, qui revient la semaine prochaine.
Tu vois, je ne l'attendais pas, ce coup-là.
C'est vrai. Et attention, est-ce que tu t'attendais à cette thématique ?
Ah, je vais être nul.
Arrête !
Attends, Maxime, on n'a même pas démarré. Ils sont français.
OK.
Et ils vont jouer la prochaine Ligue des champions.
Ouf !
Ouais.
OK ? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous dise combien il y en a ?
Ouais, bah,
de français.
Oh, 60.
Ça va être long.
Il y en a 63. J'ai pris les listes officielles UEFA, donc je veux pas liste officielle UEFA.
Ça va durer des heures.
Ouais.
Et
mais ils doivent jouer du pied gauche.
Non, et surtout le TOS pour commencer, pour savoir qui démarrera.
Ouais, là, peu importe à la limite.
Dites-moi, messieurs, vous avez suivi le football un petit peu cet été ?
Oui.
Bon, alors vous saurez me dire qui a marqué le dernier but de Nice lors de la phase de qualification de cette Ligue des Champions ?
Père Mofi ?
Non.
Mais j'étais pas là.
Sanson, Mofi,
Oh, ça va être gênant, la Boga.
Non.
Ah oui, Boga, il en a mis quelques-uns.
Qui ils ont affronté ? Vous vous souvenez qui ils ont affronté ?
Benfica.
Benfica, ouais.
Ouais.
Alors, qui a marqué le dernier but pour Nice ?
Je sais pas, je sais plus.
Je vous rappelle les scores peut-être des matchs, des allers-retours ?
Non,
2-0, non ?
Et ?
3-1 ?
Non.
Ouais.
Ils ont perdu 4-0 au score cumulé. Donc,
il n'y a pas eu
de buteur. Il n'y a pas eu de buteur niçois. Bon. Donc, c'est Martin qui démarre. Bravo, Martin.
J'ai failli le dire.
Ouais, mais tu ne l'as pas dit.
Bravo, Martin.
Ok, on y va ?
On y va donc, les joueurs français qui vont disputer la prochaine Ligue des Champions. Martin, je t'écoute.
Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain. Bonne réponse.
J'en ai plus.
Un partout.
Je vais dire Magnès Akliouche.
Magnès Akliouche avec l'AS Monaco. Bonne réponse. 2-1.
Lucas Hernandez.
Lucas Hernandez avec le Paris Saint-Germain. Bonne réponse. De partout.
Benjamin Pavard.
Benjamin Pavard avec l'Olympique de Marseille.
Lucas Chevalier.
Lucas Chevalier avec le Paris Saint-Germain, 3 partout.
Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann avec l'Atlético de Madrid. Et ce sont très jolis mulets d'ailleurs.
Très jolis mulets. Lui tout lui. Ah,
Tout lui. Vraiment.
Warren Zaïre-Emery.
Warren Zaïre-Emery avec le Paris Saint-Germain, excellente réponse.
Kylian Mbappé.
Par exemple, Kylian Mbappé, bonne réponse.
Aurélien Tchouaméni.
Tchouaméni, bonne réponse, je suis perdu dans mes fiches, voilà, hop, et Tchouaméni, tous deux avec le Real Madrid, Mbappé et Tchouaméni, 5 partout, donc attention, là, c'est la mort subite.
Ah ouais ?
À partir de maintenant.
Bah quoi ?
Ah oui, je pensais qu'on allait au bout jusqu'à...
Ah !
On verra jusqu'où vous allez.
Camavinga.
Eduardo Camavinga avec le Real Madrid.
Michael Olise.
Michael Olise avec le Bayern Munich, 6 partout.
Upamecano.
Dayot Upamecano.
En fait, on va faire une erreur à un moment.
Oui, avec le Bayern Munich.
Comme des coups.
Marcus Thuram.
Marcus Thuram avec l'Inter Milan.
Ryan Cherki.
Ryan Cherki avec Manchester City.
Ibrahima Konaté.
Ibrahima Konaté avec Liverpool.
William Saliba.
William Saliba avec Arsenal.
Bah, tu vois, là, j'ai pensé à Rabiot, par exemple. J'aurais pu...
Tu sais que j'ai failli y aller sur Rabiot.
Attends, je ne sais plus qui on a dit.
9e tentative, Maxime.
9-8 pour le moment.
Jules Koundé.
Jules Koundé avec le FC Barcelone. Ouais, 9 partout.
On commence à réfléchir là. Bah, Pogba.
Paul Pogba avec l'AS Monaco. Excellente réponse.
Ah ouais,
bien. Un sans faute, Martin, bravo.
Bah non, mais là, c'est jamais... là on a dit que des évidences.
Attention, Maxime, attention.
Ça va riper sur un mec qui n'est pas sur la liste. Celle-là, je vais coincer. Attends, j'en avais un. Malo Gusto,
avec Chelsea, bien sûr. 10 partout, donc à partir de maintenant, on peut...
On n'en a que 20 sur 60, hein.
Ouais.
Pas beaucoup. Hein.
Ah, mais c'est pas si évident. Hein.
Bah là, vous avez fait tous les évidents, on va dire, bon, globalement.
Je pense qu'il y en a
encore. Et il en reste encore, bien sûr, il en reste encore.
Et après, c'est dur de se rappeler de ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit.
Eh oui.
Bah, ce qu'il est inscrit sur les listes, c'est ça le truc.
Attention, ce sont les listes officielles UEFA.
Ouais, mais je les connais pas par cœur.
À quoi?
Ah bah, Martin, quand même...
Samir Nasri, c'est non.
C'est pas ton tour, Maxime. Tu le proposeras après.
Kefren Thuram
avec la Juventus.
Hugo Ekitike.
Bah oui.
Avec Liverpool.
S'il y a une redite, c'est perdu.
Il se marre. Alors,
non, s'il y a une redite, non.
Ah bah si, s'il y a une redite, si.
Ah, c'est un peu dur.
Bon, Lucas Hernandez, il a déjà été dit. Bah, Mayulu.
Seni Mayulu, bien sûr, ouais, avec le Paris Saint-Germain.
Ouais, Fernand Mendy.
Et
non.
Fernand Mendy, je le cherche et je le trouve. Oui. Avec le Real Madrid, bien sûr, Fernand Mendy.
Et bien, moi j'allais dire
Wesley Fofana avec Chelsea.
Bravo.
Mais tu vois, on commence à être sur des mecs
un peu plus blessés.
Alors que je pense qu'il y a des...
Ah. Il reste beaucoup encore.
Non. Non, je laisse tomber.
Non. Bon, Martin.
Loukeba,
non.
Ah, Loukeba, il n'y est pas ?
Non.
Est-ce que Romain Lenormand, il n'est pas français ? C'est espagnol ?
Ouais.
Il y avait Clément Langlais ?
Clément Langlais. Clément Langlais.
Nîmes Mopé ?
Avec l'Atlético de Madrid.
Il n'est pas sur la liste.
Nîmes Mopé, non.
Attends. À l'OM, il n'y en a plus ?
À l'OM, il vous en reste 1, 2.
Ah ouais,
il vous en reste 2 à l'OM. Ce n'est pas les plus connus.
Ouais.
Je ne suis pas sûr. Hein ? C'est fini.
Bah, vas-y, bah, dis-les.
Non, mais c'est pas le jeune, c'est pas Nadir, un truc comme ça.
Il restait Bilal Nadir à l'OM et il restait Robinho Vaz.
Ah, bah oui,
ah bah, je ne savais pas qu'il était français. N'importe quoi. Bah, Nadir, je l'avais, mais je n'étais pas sûr.
Il vous en restait du Paris Saint-Germain et il vous restait Bradley Barcola.
Waouh
wow.
Ah, ouais,
ouais, ouais.
On n'est pas sûr. Ça,
toujours au PSG, il vous restait David Boly.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bah, pas de regret.
Mmh. Mmh. Martin James du PSG, toujours.
Okay. Pas de regret.
Noam Kamara du PSG.
Ouais.
Voilà.
Ils sont sur la liste, ces mecs-là.
Ouais. Ibrahim Mbaye du PSG, toujours.
Ouais. Mmh.
Qui est-ce qu'il y avait ?
À dire, j'aurais dû.
Il vous manquait Randal Kolo Muani avec Tottenham.
J'allais le dire. Bah oui, j'allais le dire. Randal Kolo Muani. J'y ai pensé. Quoi ?
Tottenham n'était pas.
Ah ouais.
Aïe. Ouais. Bon, sinon...
C'est vrai que Tottenham, ils sont qualifiés avec la Ligue...
Si, mais à Monaco, t'as Bamba, non ?
À Monaco, il y en avait beaucoup, mais pas très
connu. Mais je m'en veux, c'est pour Nadir.
Ouais. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'il y en avait beaucoup, mais bravo, Martin. Bravo. Première victoire de la saison. Bravo.
Calmez-vous. C'était facile. C'était à la hauteur de mon adversaire.
Oui,
tu t'es adapté à Maxime, et j'ai trouvé ça sympa.
Ah non, justement.
Si.
Il faut que ce soit plus dur, je vais tout...
Mais, et non, mais...
Tranquille. Maxime, le problème, c'est que tu me réclames toujours du plus dur, mais tu perds quand même les faciles.
Ouais. Ben oui.
Donc, c'est ça le problème.
Ben oui, parce que c'est, je te dis, c'est Pogacar sur le plat, il peut perdre.
Ah oui, mais.
En montagne, il perd pas.
ne mets pas des.
Non, allez, j'arrête, je relance pas.
C'est perdu, c'est perdu.
63, purée.
C'est perdu.
Cela dit, à part Barcola, on n'avait pas.
Non, il n'y avait pas de gros manque.
Moi, Barcola, on a dit quelque chose. Moi, je l'avais, Barcola. Merci, Quentin.
Merci, messieurs.
Un nouveau t-shirt pour la semaine prochaine, s'il te plaît.
Allez, promis.
Mets-nous la plus belle pièce. Alors. La semaine prochaine, Naïm. Putain, je t'appelle comme mon fils. Je t'appelle avec le prénom de mon fils.
Tu vas avoir une Switch ?
La semaine prochaine, Maxime Fantasy. Il nous a dit un petit brin de fantasy dans l'accoutrement. Voilà. Et donc, toi, Quentin, tu nous mets la plus belle pièce de ton voici.
Allez, d'accord.
Ok ? Allez, on fait ça.
On fait ça.
À la semaine prochaine. Merci, Adrien, pour la réal. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube.
Salut.
Ciao.